Bonjour à tous. Si on se réunit ici, c'est pour rendre un culte à Dieu, c'est-à-dire lui apporter le sacrifice de nos lèvres, le sacrifice de nos louanges, et aussi, évidemment, pour écouter ce qu'il a à nous dire. Ce matin, nous allons ouvrir les Écritures dans Luc chapitre 17, au verset 20-22. Rappelez-vous que tout marche par cycle. Tout fonctionne par cycle. Tout ici-bas tourne. Et il faut que nous apprenions les leçons, pour aujourd'hui les leçons des choses qui se sont produites auparavant. Verset 20, 17-20. Les pharisiens demandèrent à Jésus, « Quand viendrait le royaume de Dieu ?» Il leur répondit, « Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. » On ne dira point, il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Et il dit aux disciples, des jours viendront où vous désirerez voir l'un des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez point. On vous dira, il est ici, il est là, n'y allez pas, ne courez pas après. Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par cette génération. Amen. Quand ces pharisiens sont venus vers Jésus, il y avait déjà à peu près 3 ans qui s'étaient écoulés depuis que Jean-Baptiste avait annoncé « Le royaume de Dieu est proche ». Et les pharisiens ne voyaient pas. Ils ne voyaient rien qui indiquait l'établissement du royaume de Dieu. Quand Jean-Baptiste annonçait l'établissement du royaume de Dieu, beaucoup de pharisiens étaient venus parce que bon, ils avaient quand même de l'espoir. Ils se disaient peut-être que c'est vrai, peut-être que celui-là c'est un vrai prophète, on va aller l'écouter. Ils écoutaient, ils faisaient attention à ce qu'ils disaient. Et puis, l'histoire a fini bizarrement avec Jean-Baptiste dans la violence. Il a été massacré, n'est-ce pas, parce qu'il avait osé dire des choses au sujet du roi Hérode et de sa concubine. Alors ils ont voulu, n'est-ce pas, se désolidariser de Jean-Baptiste qui avait une très mauvaise réputation et ils se sont mis à s'opposer au ministère de Jésus-Christ puisque Jean-Baptiste avait dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Ils avaient entendu tout ça. Ils avaient entendu que Jean-Baptiste avait dit « Le royaume de Dieu est proche ». Et quand il a désigné Jésus, ils se sont dit « Ça, là, là, ça va peut-être être lui ». Et puis l'histoire s'est déroulée. Et puis, c'était pas tout à fait comme il pensait. Jésus s'occupait pas de politique. Il bénissait même des Romains. Il était tout à fait à l'envers de ce qu'ils espéraient. Alors, voilà la réponse que Jésus leur donna. Le royaume de Dieu ne vient pas de telle sorte qu'on puisse l'observer. On ne dira pas, voici, il est là, allez-y. Non, non. Ou il est là. Car voyez, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Il y a une espèce de résonance, là, c'est désagréable, on ne peut pas trancher. Ça ne vous gêne pas, cette résonance? Ah, moi j'entends ça, c'est bizarre. Excusez-moi. Dans Romains 14, 17, l'apôtre Paul dira, le royaume de Dieu consiste en la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. La justice parce que Dieu nous a fait justice, la joie parce que nous sommes heureux qu'il nous a fait justice, la paix parce que nous sommes maintenant en paix avec notre Dieu. Et frères et sœurs, le royaume de Dieu, son établissement, c'est dans les cœurs. C'est dans les cœurs. Et il ne faut pas regarder de côté et d'autre pour voir des manifestations de puissance terrestre qui accompagnent sa venue. Non, pas du tout. Et puis, tranquillement, Jésus s'est tourné vers ses disciples, parce qu'il y avait des pharisiens, mais il y avait les disciples qui étaient là aussi. Et puis, il leur dit, des jours viendront, vous désirerez voir l'un des jours du Fils de l'homme, c'est-à-dire un des jours que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, et vous ne le verrez pas. Étant donné que je ne viens pas, je paraphrase, de façon avec les fastes comme dans le monde, avec des pompes mondaines, eh bien vous courez le risque de ne pas voir la gloire de ma mission. Vous ne vous rendez pas compte de la grandeur du privilège dont vous jouissez actuellement, c'est ce qu'il leur disait. D'avoir au milieu de vous, bien que voilé dans la chair, celui qui est la vie, qui est la lumière des hommes. Et les jours viendront où vous désirerez, où vous souviendrez avec regret des occasions qui vous sont offertes maintenant de marcher et de converser avec le Fils unique de Dieu. En fait, c'est ça qu'il leur disait. Alors nous, on a des phrases, on les lit, et puis voilà. Mais c'est ça que ça voulait dire. Alors l'égoïsme des pharisiens et l'esprit terre-à-terre des disciples, ce n'étaient pas des gens très, comment dire, très fut-fut. Ça les empêchait de comprendre, de voir la gloire spirituelle que Jésus s'efforçait pourtant de leur révéler. Et c'est que quand Jésus est retourné au Père, quand le Saint-Esprit a été répandu sur les croyants, qu'ils ont pu enfin apprécier à leur juste valeur les caractères et la mission de Jésus. Et encore, il y avait encore beaucoup de choses à apprendre. Quand ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit, ils ont commencé à comprendre qu'ils avaient été en présence du Seigneur de gloire, du Créateur des cieux et de la terre, dans un corps de chair. Et le Saint-Esprit leur rappelait ce que Jésus leur avait enseigné et... ça leur revenait à la mémoire, ils en parlaient. Ah oui, tu te rappelles, il avait dit ça, le Saint-Esprit les travaillait comme ça. Et comme ils avaient l'esprit oint, baptisé en Dieu, alors leur intelligence commençait à s'ouvrir au sujet des prophéties, même de l'Ancienne Alliance, de l'Ancien Testament. Leur esprit immergé dans l'Esprit de Dieu s'ouvrait à la signification des miracles, même que Jésus avait opérés. Ils voyaient dans les miracles que Jésus avait opérés des types, en fait. Vous savez ce que c'est que la typologie. Et les merveilles de la vie de Jésus défilaient devant eux, ils y pensaient sans cesse. Et ils semblaient alors se réveiller comme se réveiller d'un long sommeil. Pourtant, ils avaient vu, ils étaient là. Et voilà que seulement maintenant, ils comprenaient, la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Pleine de grâce, pleine de vérité. Et nous avons contemplé la gloire, une gloire comme celle du Fils unique venant du Père. Ça, c'est ce qu'ils ont écrit après, mais sur le moment, oui, ils avaient des coups comme ça, oui, tu es le Fils de Dieu, puis après, ben, c'est passe-moi le sel, c'est qui le plus grand. Alors, les disciples, à ce moment-là, ils ont commencé à cesser de se donner de l'importance. Et ils ne se lassaient pas de se repasser, de repasser dans leur cœur les paroles et les œuvres de Jésus, ce qu'il avait dit, ce qu'il avait fait. Alors, des leçons qu'ils avaient comprises imparfaitement, à ce moment-là, ça leur apparaissait comme des nouvelles révélations. Ce n'était pas nouveau, Jésus leur avait déjà dit. Et les Écritures qu'ils avaient lues depuis l'âge de 12 ans, dans les synagogues, tout à coup, pour eux, ça prenait une signification nouvelle. Ça paraissait nouveau. Ce n'était pas nouveau, c'était eux qui étaient tout d'un coup réveillés. Et plus ils lisaient les Écritures, plus ils les scrutaient, plus ils entraient dans l'intimité de Jésus, de qui il était vraiment. Ils avaient mangé avec lui, ils avaient dormi avec lui, mais ils n'avaient pas réalisé vraiment qui il était. Et plus ils se souvenaient des paroles de Jésus, et plus leur intelligence, qui là était ointe, comprenait ce qu'il leur avait dit. Par exemple, qu'ils devaient encore aller dans une autre bergerie, ou d'autres choses comme ça. Et le Saint-Esprit pouvait alors les instruire. Jésus n'avait pas vraiment parlé de ça du temps où il était sur cette terre. Mais ensuite, comme dira l'apôtre Paul, tout ce que je vous ai dit, je l'ai reçu par révélation. Ce n'est même pas les apôtres qui me l'ont dit. C'est par révélation. Et le Saint-Esprit pouvait les instruire et les conduire dans toute la vérité. Ils étaient donc à l'école de celui qui était descendu sur la terre, puis sous la terre, et qui était monté au ciel pour achever l'œuvre qu'il avait commencée au ciel, sur terre et sous terre, afin de s'assujettir toutes choses et d'être le roi partout, le maître partout. Alors il reconnaissait qu'en Jésus habitait véritablement une connaissance qu'aucun être humain ne peut appréhender si ce n'est par le secours, avec le secours du Saint-Esprit. Il ne peut pas. Ils le diront eux-mêmes. Sans le Saint-Esprit, c'est impossible. Ils ne peuvent même pas sans le Saint-Esprit. Ils commencèrent donc à avoir le sentiment d'avoir un besoin, le besoin d'être aidés par celui dont les rois, dont les prophètes, dont les justes d'autrefois avaient parlé. Ils avaient le sentiment d'avoir besoin d'aide. C'était plus, ouais, qui c'est qui va être assis à côté de toi, tout ça. Non, c'était fini ça. Alors avec chaque fois qu'ils ouvraient les Écritures, ils étaient stupéfaits. Et il les relisait, et il voyait les descriptions prophétiques du caractère de Jésus, de sa mission, de son œuvre, de tout ce qu'il allait faire, et il se souvenait à quel point avait été terne leur compréhension des Écritures. Combien Dieu est grand et s'occupe de tout. Combien ils avaient été lents à saisir les grandes vérités relatives au Messie souffrant. Les pharisiens, ils n'ont rien compris du tout. Eux, pas grand-chose, mais enfin, quand même, ils avaient un cœur bien disposé. Mais ils n'avaient pas compris. Ils l'avaient vu dans son humiliation, il marchait avec un homme qui marchait parmi les hommes, c'était un homme extraordinaire, il disait des choses formidables, mais ils n'avaient pas compris le mystère de l'incarnation du Dieu vivant. Et ils n'avaient pas compris la dualité de sa nature. Non. En fait, leurs yeux étaient restés fermés, de sorte qu'ils n'avaient pas pu voir la divinité dans l'humanité. Ils n'avaient pas pu voir. Alors, une fois qu'ils ont été éclairés par le Saint-Esprit, ils disaient et désiraient le revoir. Ardemment, ils désiraient le revoir. Ils désiraient de nouveau s'asseoir à ses pieds pour l'écouter. Ils auraient voulu pouvoir, comme avant, l'écouter et puis lui demander des explications au sujet de certains passages, des écritures un peu difficiles à comprendre et des choses qui leur échappaient. Et puis là, ils auraient écouté respectueusement, ils n'auraient pas été en train de penser à d'autres choses pour l'interrompre et poser des questions stupides comme ils avaient l'habitude de le faire quand il était sur terre. Terre à terre. Qu'est-ce que Jésus avait voulu leur dire, par exemple, quand il avait dit j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Jean 16, 20. Ils étaient impatients maintenant de savoir. Ils voulaient comprendre. Et puis, vous voyez, c'est quand même bizarre. Les plus grandes choses que Jésus n'a pas pu leur dire à eux, ben, il les a dit à Paul, par l'Esprit. Et en même temps, ils étaient impatients de tout savoir. Et en même temps, ils étaient affligés d'avoir eu si peu de foi, si peu. Et puis d'avoir entretenu des idées tellement éloignées de la pensée christique, de la réalité christique. Jean-Baptiste avait été envoyé pour annoncer la venue du Messie. Il l'a présenté, il avait été envoyé pour inviter les gens à se préparer à le recevoir. Et ce personnage annoncé par Jean et par tous les prophètes avant lui, voilà qu'il était venu. Mais ils ne l'ont pas vraiment reconnu. Ils n'ont rien compris ou pas grand-chose. Les disciples s'étaient vraiment pris de remords, mes frères et sœurs, d'avoir permis à l'incrédulité générale, ambiante, d'avoir influencé leur opinion, d'avoir obscurci leur entendement, parce qu'ils entendaient les uns et les autres parler, ils entendaient leurs traditions contredire les choses que Jésus disait ou faisait, et ils étaient attristés, ils avaient des remords d'avoir été si incrédules. La lumière était venue dans ce monde, mais ils n'avaient pas su voir. Ils n'avaient pas su voir d'où venaient les rayons. Ils n'avaient pas su voir. Et ils ne se demandaient plus maintenant pourquoi ils avaient mérité des reproches si fréquents de Jésus. Ils ne se demandaient plus, mais ils avaient compris. Et ils se souvenaient des conversations qu'ils avaient eues avec lui. Ils s'en souvenaient avec joie, mais aussi avec tristesse, disant, mon Dieu, qu'est-ce qu'on aimerait pouvoir revivre un de ces jours, mais c'est fini maintenant. Et ils disaient, mais pourquoi est-ce que nous avons permis à des considérations vaines de jeter la confusion dans nos esprits? Mais pourquoi on était si bêtes? On avait avec nous l'homme le plus grand que Moïse, plus sage que Salomon, il était là. Mon Dieu, que notre compréhension était faible. Ils étaient dans le remords. Et l'histoire se déroule, l'histoire continue. Et puis ensuite, eux-mêmes, ils ont été traduits devant les tribunaux, ils ont été jetés en prison. Et là, ils étaient joyeux d'avoir été trouvés dignes de subir les outrages pour le nom de Jésus. On trouve ça dans Actes 5, 41, c'est-à-dire tout au début. Hein. Quel changement dans leur compréhension. Là, ils étaient heureux de pouvoir, en face des hommes, en face des anges, en face des démons, démontrer qu'ils connaissaient la gloire de Jésus qui s'était assujetti toutes choses, celles qui sont au ciel, celles qui sont sur la terre et celles qui sont sous la terre. Et ils savaient qu'ils le suivraient jusqu'à la mort. Et ils le disaient clairement même à ceux qui les menaçaient. Aujourd'hui, comme au temps des apôtres, l'humanité ne peut pas discerner la gloire de Jésus-Christ sans être éclairée par le Saint-Esprit. Impossible. Bien sûr, comme au temps de Jésus, il y a deux semences, il y a l'ivraie et il y a le bon grain. Ne parlons même pas de l'ivraie, mais parlons du bon grain. Si peu de bon grain comprend ce que Jésus est en train de faire. À l'époque de Jésus, les pharisiens et les disciples, acte 1, 6, avaient demandé au sujet de l'établissement du royaume de Dieu. Bien. De nos jours, la question, elle est au sujet du rétablissement du royaume de Dieu. Où est le rétablissement? Est-ce que c'est ce qu'on vit ici? Est-ce que c'est ça le rétablissement? Ne serait-ce pas une influence démoniaque? Qu'est-ce que Jésus fait vraiment, lui? Qu'est-ce qu'il fait, lui? Eh bien, mes frères et sœurs, il se trouve dans les sentiers de la peine en ce moment, de l'humiliation contre les pouvoirs, contre les dominations des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Comme au temps de Jésus, cela n'est pas vu. Comme au temps de Jésus, cela n'est pas connu. Et cela est même opprimé par les prêtres contemporains. Comme au temps de Jésus, l'histoire se répète, ce sont des cycles. Le rétablissement du royaume ne vient pas de manière à attirer les regards. 1 Corinthiens 2, 14. Jésus travaille dans le domaine de l'esprit, parce que son royaume n'est pas de ce monde. Ici, on se tient à la brèche entre deux mondes, entre le monde matériel, le visible, et le monde immatériel, invisible. Faisons ce qu'il faut pour que ceux qui sont prédestinés au salut soient sauvés sur terre et sous terre. Et Jésus n'a pas tenté de réformer les systèmes politiques établis de l'époque, ni ceux. Aujourd'hui, non, plutôt hier, Nicolas est entré en politique au Burkina Faso. C'est très bien parce que c'est un homme de Dieu, un homme de foi, et il va pouvoir donner une influence chrétienne et lutter contre la corruption. Je pense que Dieu permet que les choses de Dieu puissent se manifester dans ce milieu-là afin d'attirer des hommes et des femmes hors de la corruption. C'est une bonne chose. Mais ce n'est pas ça le principal que Jésus est en train de faire aujourd'hui. Il ne condamne pas les occupants de son pays, par exemple. Non, pas du tout. Frères et sœurs, celui qui est notre modèle s'est tenu à l'écart des gouvernements terrestres parce que le remède ne résidait pas et ne réside toujours pas uniquement dans des mesures humaines. Je dis bien, ne réside pas uniquement parce que c'est vrai qu'il y a aussi des mesures humaines qu'on peut prendre, qu'on doit prendre pour que les choses marchent mieux. Et c'est pourquoi je félicite Nicolas d'avoir pris cette position pour son pays. Jésus, lui, voulait réussir comment? En atteignant les siens. Et en les régénérant. Il les a atteints dans un premier temps, puis les a régénérés après. Et rien n'a changé aujourd'hui. Il appelle d'abord, il régénère ensuite. Le royaume de Jésus-Christ, il ne sera pas rétabli par des décisions humaines. Le royaume de Jésus-Christ ne sera pas rétabli par des conseils ou des assemblées législatives. Le rétablissement du royaume de Jésus-Christ ne sera rétabli que par l'action du Saint-Esprit qui communique sa nature aux véritables croyants. C'est tout. Parce que à tous ceux qui ont reçu la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. À ceux qui croient en son nom, le nom de la parole c'est, et qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu, à ceux-là est donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et c'est là l'unique puissance capable de relever l'humanité sur terre et sous terre. C'est là l'unique puissance. Et le moyen humain pour y arriver, parce qu'il y a un moyen humain, et bien c'est comme au temps de Jésus, l'enseignement suivi et confirmé par des miracles. C'est tout. C'est la mise en pratique de la parole qui est enseignée. C'est tout. Les disciples ont vu tout ça, ils se sont réjouis parce qu'ils voyaient des aveugles qui voyaient. Ils étaient réjouis parce qu'il y avait des paralytiques qui marchaient, mais ils ne comprenaient pas ce que ça voulait dire. Ils ne comprenaient pas la signification typologique de la chose. Aujourd'hui, ceux qui travaillent en vue du rétablissement du royaume de Dieu sont ceux qui annoncent au nom du Seigneur Jésus-Christ dans le monde les vérités spirituelles qui renouvellent l'expérience de Paul chez ceux qui la reçoivent. Quelle est cette expérience? Paul le dit, Galates 2, 20, « Je suis crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Écoutez-moi. Alors ceux-là travaillent au bien des gens, comme faisait Paul, qui disait lui-même, nous faisons fonction d'ambassadeurs de Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, il disait, au nom de Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Jésus, je te prie, sérieusement, sincèrement, pour qu'il n'y ait aucune tiédeur chez nous, mais que le oui soit oui, que le non soit non, et que les choses se précisent clairement et rapidement, afin que tu puisses continuer au travers de nous, que tu as choisi le rétablissement de toutes choses. Je te remercie, Seigneur Dieu, de ce que tu fais ton œuvre dans les cœurs. Je crois, Seigneur Jésus, que tu nous as appelés et que tu nous régénères, que tu nous recrées, que tu fais de nous des êtres nouveaux qui peuvent être capables de recevoir ces paroles. Merci, Seigneur, d'aider chacun et chacune à aller à genoux et chercher ta face, non pas pour établir un gouvernement mondial, un gouvernement spirituel, quoi que ce soit, non, mais pour être gouverné par toi. Je te le demande, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu.
Vous savez, frères et sœurs.